maintenant que tu m'as eu, tu chantonnais. Toute ma vie, j'ai trop dit oui. Mais ce soir, je resterai ici. Non, tu m'aimeras pas. T'as aucune chance, je me suis mis au lit. Dehors, il pleut des cordes, j'ai besoin. C'est moi qui ferme toute ta clé. Ou est-ce que c'est toi qui ne m'as jamais rien donné? Au risque de tout manquer, j'envisage la possibilité de ne plus jamais te voir. Je me tiolerai coquelicot de mai. Ah, ça pique dans mes yeux. Mon chéri, comme dire par les cheveux.
Écoutez, Chiz 94.3 FM, Québec.
Jeunes et aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur Chiz qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et aînés solidaires ouvrent le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants, tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et aînés solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement.
Vendredi 2 décembre 2022, ici Alex Bergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bon vendredi sur les ondes de Chiz 94.3 à Québec et de CFAC 88.3 à Sherbrooke, vos radios universitaires préférées. Toujours content de vous retrouver. Semaine après semaine, déjà le mois de décembre, 2 décembre, mon Dieu. Déjà la fin de l'année à venir, un peu plus tard, évidemment, le rétrospective de l'année. Il faut commencer déjà à y penser, à faire le grand bilan de ce qui s'est déroulé depuis janvier 2022, en tant que 2 décembre 2022, évidemment. Souvenez-vous que l'année avait commencé avec les Ostrogoths en vacances, avec James Awad qui avait loué un autobus, qui avait loué un avion pour sa gang de non-vaccinés pour aller dans le sud. Parce que pourquoi pas, en plein retour du confinement que François Legault avait déclenché le 30 décembre ou le 31 décembre au soir 2021. Et c'est là-dessus que commençait l'année 2022 avec ces voyageurs influenceurs du dimanche. Et comme il ne se passait rien d'autre dans l'actualité, c'était le gros sujet. L'année avait commencé comme ça en 2022 au Québec. Évidemment, ben, qui dit bilan de l'année dit forcément que le bye-bye s'en vient également. Ça, ça a été confirmé que les tournages étaient déjà entrepris. Donc, c'est à nouveau Simon-Olivier Fecteau qui pilotera le bye-bye de cette année. À voir comment il sera articulé, voir s'il sera un peu meilleur que les autres années ou s'il sera stagné comme il l'est depuis 2 ans au moins. À être relativement gentil et on fait plaisir à tout le monde. Davantage que d'être un petit peu plus incisif et d'être un petit peu plus méchant que les années passées. Que mettons un bye-bye fait par le tandem Cloutier-Morissette. Morissette surtout comme auteur, mais Véronique Cloutier en tant qu'actrice principale. On retrouve... pour cette année, Guylaine Tremblay, François Bellefeuille. On retrouve Sarah-Jeanne Labrosse. S'ajoute au casting principal Pierre-Yves Roy Desmarais. Donc, il ne fera pas seulement la chanson d'ouverture, si c'est encore lui qui fait la chanson d'ouverture. Et il me semble que c'est ça. Ah oui, Patrick Huard s'ajoute au casting principal. Donc, out Claude Legault, c'est plutôt... Patrick Huard qui prend la place principale et avec une vidéo un peu malaisante, on nous a annoncé cette semaine que les candidatures étaient ouvertes. Donc, si vous voulez vous voir souhaiter la joyeuse année, vous pouvez le faire. Vous pouvez envoyer vos vidéos à Radio-Canada pour être dans le montage entre minuit et minuit 2. C'est-à-dire le bout que les gens ne regardent pas. Donc, vous pouvez y ajouter votre grain de sel, si vous le voulez. Donc, la vidéo circule en ce moment. C'est comme une chanson à répondre. C'est très pas bon. Donc, en ce moment, si c'est ça le ton du bye-bye, ça ne regarde pas bien. Blague à part, c'est un gros mandat, malgré tout. C'est dur de ravir tout le monde. C'est sûr qu'on essaie d'être le plus gentil possible pour avoir le moins de controverses possible comparativement à d'autres années. Reste que depuis quelques années, Infoman demeure assez imbattable dans sa revue de l'année. Eux n'ont pas nécessairement le mandat de faire justement des sketchs, des parodies, tout ça. Ils peuvent juste aller voir les gens qui ont fait l'actualité. Je soupçonne peut-être un James Awad qui pourrait faire une fausse conférence de presse pour présenter le mois de janvier d'Infoman. J'ose croire que c'est quelque chose qu'il serait capable de faire du côté de l'équipe de Jean-René Dufort et de Zone 3. Il y aurait ce guts-là à suivre de quoi ça aura l'air. Ceci dit... ce qui a été également au courant de l'année 2022, c'est évidemment la désinformation. Ça ne fait pas relâche. Les complotistes continuent d'être certains fléaux sur YouTube parce que YouTube, c'est une plateforme qui est facilement accessible. C'est une plateforme que monsieur, madame, tout le monde est capable d'aller dessus parce qu'elle est simple, ce qui fait en sorte que les gens qui font de la mauvaise information, qui vont mettre des informations fausses, vont se donner un habillage pour se donner une certaine crédibilité, même s'ils n'en ont aucune, si elles n'en ont aucune et qu'elles vont faire n'importe quoi. Et c'est ce qui est arrivé. On en a parlé à l'émission un peu plus tôt cet automne. Nadia Tchotché qui se faisait appeler Nana l'information autrement, qui ne relayait en d'autres termes que des fausses informations sur Donald Trump en disant qu'il est au pouvoir de manière secrète, que c'est lui qui dirige les États-Unis et tout ça. Elle a réussi à amasser de l'argent parce qu'elle voulait faire, entre très gros guillemets, un documentaire sur le dépouillage électoral pendant l'élection de mi-mandat. Évidemment, elle s'est fait couper ses fonds 2 semaines avant de partir faire son documentaire, mais évidemment, en tant que Canadienne, c'était sans visa de travail, parce qu'évidemment, elle a essayé de passer aux douanes, mais comme elle n'avait pas de visa de travail, elle n'a pas pu passer de toute façon. Donc, elle pensait arriver aux États, filmer le dépouillage électoral, comme si de rien n'était. Je sais pas c'était quoi son plan exactement. YouTube a publié cette semaine qu'ils avaient supprimé plus de 450 000 vidéos au Canada seulement depuis le début de la pandémie, selon un rapport qui a été rendu public pour essayer de contrer la désinformation et les théories du complot, du moins de sa plateforme à eux, donc de Alphabet, là, la maison mère de Google, de YouTube par la bande. Nous nous concentrons sur un objectif majeur, prévenir les dommages flagrants dans le monde réel, peut-on lire dans le document publié lundi. C'est Francis Pilon, Journal de Montréal, qui rapportait la nouvelle. L'équipe de Matt Alperin, vice-président responsable mondial de l'équipe de confiance et sécurité chez YouTube, qui détermine les politiques internes pour supprimer ou non le contenu nuisible. C'est également nécessaire pour assurer le succès à long terme de YouTube en tant qu'entreprise, car nos partenaires publicitaires ne veulent absolument pas être associés à des contenus néfastes. Parce qu'évidemment, ceux qui affichent leur publicité sur YouTube ne contrôlent pas nécessairement sur quelles vidéos ils vont apparaître. Donc, ça peut faire en sorte que la SQ, bon, non, peut-être la SAQ, va présenter une vidéo de Nana l'information autrement parce qu'elle n'a pas encore été identifiée comme étant contenu conspirationniste ou contenu de désinformation. Et ça, les liens, ben, c'est sûr qu'évidemment, eux n'ont pas le contrôle de s'afficher là-dessus, mais eux vont peut-être choisir de s'afficher sur du contenu québécois, local, montréalais. Donc, par conséquent, ils vont se ramasser avec du contenu comme elle, mais l'essentiel de ces vidéos, c'est de louanger Donald Trump et c'est à peu près tout. Essentiellement, son discours est assez chenu. Elle se base sur à peu près rien et elle s'identifie elle-même comme étant une journaliste indépendante. Or, elle ne fait que lire ce que QAnon publie et le partage en français, donc une version un peu plus cheap de ce qu'Alexis Cossette fait de son côté sur d'autres sites un peu plus discret, parce que justement la censure ou du moins le contrôle qualité est un petit peu moins présent. Le géant américain YouTube a désormais plusieurs motifs pour bannir, soit des séquences ou des chaînes de sa plateforme. Pour bannir des séquences des chaînes de sa plateforme, soit la désinformation, les pratiques trompeuses, la sécurité des enfants, des motifs de suicide ou des vidéos incitant au suicide, la cyberintimidation, l'organisation de crimes violents, la planification de crimes violents, donc mettons un janvier, c'était cette année aussi, c'était un janvier, l'insurrection au Capitole, mettons des vidéos qui diraient on se donne rendez-vous telle place, évidemment ça va être banni, la nudité, et les pratiques trompeuses, donc visant à justement désinformer et tout ça. Cela ne signifie pas que nous supprimerons tout contenu offensant de YouTube, mais nous prenons soin de fixer des limites au contenu susceptible de causer un préjudice grave aux utilisateurs de la plateforme. C'est comme ça qu'on se dit qu'on va faire cette censure-là, ou en tout cas qu'on va réglementer le tout. Dans les 452 000 vidéos au Canada entre avril 2020 et septembre 2022, aucune statistique n'est disponible pour le Québec spécifiquement. Donc, c'est vraiment au Canada, on a enlevé presque 500 000 vidéos. Le Journal de Montréal a révélé qu'au moins les deux complotistes québécois ont vu leur chaîne YouTube être supprimée puisqu'elles ont enfreint les règles de plateforme durant la pandémie. Comme je le disais, Alexis Cossette-Trudel, au tout début, ça a été relativement rapide avant qu'il se fasse couper les vivres à même YouTube, qui était sa principale source. Et depuis, il a beaucoup moins de vues qu'il en avait. Il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins que ce qu'il avait sur YouTube. Tu sais, du 500 000, 600 000 le code d'écoute, pour passer à du 50, 100 000, c'est notable, c'est notoire. Et heureusement, justement, que ces vidéos deviennent plus difficiles, entre guillemets, à trouver, ça fait en sorte que les gens ne vont pas chercher plus loin. Nana, l'information autrement, qui avait 90 000 abonnés, Nadia Chico, de son véritable nom, avait des adeptes aux quatre coins de la planète dans la francophonie. Elle résidait à Blainville, partageait de la fausse nouvelle sur la gestion de la pandémie, mais également sur la fraude électorale américaine. Pardon. Donc, essentiellement, C'était ça, c'est qu'elle vantait que Donald Trump était encore au pouvoir, que c'était lui le vrai leader parce qu'il y avait eu fraude électorale. Donc, voilà pour ça. Donc, YouTube met ses culottes, entre guillemets, en laisse un peu moins passer et s'arrange pour que, justement, l'information qui soit véhiculée soit mieux vérifiée et ou mieux encadrée. On s'arrête quelques instants. Au retour, on continue, on commence et on continue à regarder l'actualité de la semaine. Vous écoutez le deuxième service, ici même sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 80.3, Jérôme 50 en musique.
Jamais un homme n'avait autant désiré une femme. Tu étais là, tout près de moi, sur la piste de danse. Tant d'années à boire ma peine, comme les rues d'Amsterdam. Tes yeux bruns m'ont pointé du doigt, et j'ai tenté ma chance. Tu m'as dit,
t'en fais pas, on est dans une chanson. Et l'auteur a besoin d'inspiration.
Retour au deuxième service. Dossier un peu épineux, mais en même temps, et ça confirme évidemment que le gouvernement continue d'y aller à tâtons. Il y a une décision qui avait été rendue dans les dernières semaines qui remettait en question les interpellations aléatoires de la police. Et fin des interpellations sans motif. Un jugement qui avait du bon, selon plusieurs. Donc, lutte contre le profilage, fini les voilà, donc pour le profilage racial, fini les interceptions sans motif selon un juge. C'est ce que le magistrat Michel Hiergeau, le juge Michel Hiergeau, a donné raison. Donc là, on était à la fin octobre, avait donné raison à Joseph Christopher Luamba, un étudiant d'origine haïtienne dans la jeune vingtaine, et à trois reprises, et en peine plus d'un an, il s'était fait intercepter sans motif, et chaque fois, il avait été libéré sans constat d'infraction après s'être identifié. Donc, on l'avait juste interpellé. « Toi, viens ici, dis-nous t'es qui, qu'est-ce que tu fais là, nanana, pour aucune raison. » À la base, les interceptions sans motif, c'était pour si, par exemple, il y avait un véhicule qui roulait un peu croche, on pouvait l'arrêter parce que le policier, selon son bon jugement, pouvait penser qu'il pouvait y avoir un problème. Donc, ça pouvait être de l'alcool, ça pouvait être de la drogue. T'sais. C'est pour ça que ça ne prenait pas de mandat pour arrêter la personne, donc sans motif justifié, entre guillemets. Donc, Michel Hiergeau est allé du côté Joseph Christopher Lumumba. Les policiers ne pourront plus intercepter sans motif des automobilistes, selon la Cour supérieure, dans un jugement majeur dénonçant le profilage racial envers la communauté noire. On ne peut pas, comme société, attendre qu'une partie de la population continue de souffrir en silence. Le profilage racial existe bel et bien. C'est une réalité qui pèse de tout son poids sur les collectivités noires, a commenté le juge Hiergeau en sonnant le glas des contrôles routiers aléatoires. Donc, que parce qu'une personne avec la peau plus foncée conduit une voiture de location ou un beau véhicule, entre guillemets, ce n'est pas suffisant pour l'arrêter parce que il est pas immatriculé au bon nom. Tu sais, de ce genre de raisons un peu boiteuses là qu'on voit sur les réseaux, parce qu'évidemment, il y en a plusieurs qui filment leur arrestation, évidemment, injustifiée. Des fois, ça peut juste être t'as mal fait ton stop, tes papiers. C'est assez ordinaire, mettons, comme défaite souvent. C'est une réforme qui ne s'est pas vue depuis longtemps, a commenté Maître Arji Riahi, qui a fait partie d'une équipe de recherche ayant produit une expertise dans le dossier. C'est qu'à l'époque, des juges dissidents avaient prévu que des faits sociaux nouveaux pouvaient faire changer la donne. Et c'est exactement ce qui est arrivé en 2019, quand le plus haut tribunal du pays a appelé à mieux comprendre la question de profilage racial. La décision du juge Hiergeau est en quelque sorte une mise à jour du droit, a estimé Maître Riahi. Jusque-là, tout allait bien et c'était quand même une victoire quand même assez majeure, surtout en ce qui a trait le profilage racial. Évidemment, parce que il pouvait pas s'empêcher de faire quelque chose. L'actuel gouvernement de François Legault est sorti quelques semaines, est sorti dans la même semaine en disant que les interpellations aléatoires sont parfois nécessaires, selon François Legault. Donc, rajoute un petit peu d'huile sur le feu en réaction au jugement qui interdit aux policiers d'intercepter les automobilistes sans motif. On l'avait dit quand on a déposé notre plan de lutte au racisme, qu'on veut et qu'on a mis en place des mesures contre le profilage racial. Par contre, quand on parle d'interpellation aléatoire, il faut comprendre qu'il faut laisser les policiers faire leur travail. Ça, c'était la défaite que donnait François Legault. Il rappelle les nombreuses fusillades survenues cet été dans la métropole. J'ai totalement confiance aux policiers, c'est important de les appuyer. Quel est le rapport? Bonne question, mais c'était sa défense, en tout cas. Ce qui fait en sorte que, plus récemment, on arrive à cette semaine, ou en tout cas, dans les dernières semaines, on apprenait que, finalement, Le gouvernement Legault allait contester le jugement qui a ordonné la fin des interceptions aléatoires, une pratique intolérable et reposant sur des apparences et des préjudices. Donc, c'est confirmé. Le gouvernement du Québec va demander à ce qu'on révise cette décision-là, donc qu'on puisse continuer à faire des interceptions aléatoire. Le ministre de la Sécurité, le nouveau ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, et le nouveau ministre responsable de la lutte contre le racisme, Christopher Skeet, ont annoncé la décision du gouvernement de porter la décision en appel de la Cour supérieure vendredi lors d'une conférence de presse à Montréal. Donc, on parle de la semaine dernière. Lorsque l'a rendu sa décision un mois avant... plutôt lors du procès, le ministère public avait assuré que les policiers étaient maintenant, en tout cas, étaient maintenant formés pour ne pas tenir compte de considérations raciales ou sociales quand des interceptions aléatoires ont lieu. Mais évidemment, l'argument n'a pas tenu et le magistrat a décidé de mettre fin à cette pratique, même si la Cour suprême les avait autorisés en 1990. Donc, ça faisait déjà 30 ans. Et on arrivait aujourd'hui qu'on retirait ce droit-là parce que, justement, il y avait des abus. Et plutôt que de laisser ça aller, évidemment, le gouvernement Legault décide de se mettre dans le chemin et de dire « Non, non, des fois, c'est utile. Et les policiers seront plus racistes. On va obliger qu'ils suivent une formation pour arrêter d'être racistes. » Ou une affaire de même, tu sais, c'est assez vague. Et ce qu'on apprenait cette semaine, pour boucler la boucle, c'est que finalement, le ministère de la Sécurité publique n'a aucune donnée sur les interpellations aléatoires des automobilistes qui entraînent souvent du profilage racial, même si le ministre François Bonnardel a affirmé jeudi qu'elles étaient essentielles pour assurer la sécurité routière. Donc, que c'était... inconcevable qu'on enlève les interpellations aléatoires parce que c'est tellement important d'avoir ça, mais qu'au final, ils n'ont pas de preuves tangibles qui disent que oui ou non, c'est vraiment quelque chose qui fait une différence. Questionnée par la députée libérale Jennifer Macaroni, qui voulait savoir pourquoi le gouvernement portait en appel la récente décision de la Cour, le ministre Bonnardel a tout simplement déclaré « Pourquoi l'article 636 est important dans le travail des policiers? La prévention, la sécurité routière, la validité des permis de conduire, conduite erratique, possiblement avec alcool au volant. » Il a essentiellement repris les arguments de l'Association des directeurs de police du Québec. Sauf que dans les faits, et... il y a des preuves que ce n'est pas uniquement ça. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont la peau plus foncée et qui conduisent un certain modèle de voiture, se font arrêter parce qu'on pense que ce sont des voleurs de chars. Il y a des vidéos qui circulent, ça existe. Des interpellations fautives qui sont pour simple prétexte de juste vouloir arrêter la personne, il y en a eu beaucoup. Donc, ce n'est pas vrai que c'est... uniquement parce qu'on veut faire du contrôle de voir si la personne est saoule ou si elle l'est pas. Quand il est 10 heures le matin, c'est assez difficile de justifier « Ah, t'as mal fait ton stop, tu dois être chaud, on t'arrête. » Ça devient extrêmement extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que en ce moment, ben on dit... que c'est hyper essentiel, mais que dans les faits, finalement, on n'a pas de preuves tangibles que c'est vraiment le cas. Donc, c'est pour ça que la question vient se poser, pourquoi est-ce que le gouvernement Legault décide de continuer à tourner le couteau dans la plaie en ne laissant pas aller une décision qui a été rendue, qui est pourtant tout à fait légitime, que... il y a eu de l'abus. C'est pas normal que ça se soit produit dans les 32 dernières années. Et plutôt que de laisser ça aller, ils décident de mettre de l'huile sur le feu, de rajouter du trouble et de faire « Non, non, c'est déjà arrivé que, oui, un gars sous, on l'a arrêté puis on a bien fait. » Peut-être. Mais il y a aussi tout le pendant d'abus que ça, ce n'est pas justifiable et que c'est ça qui a été dénoncé. Mais malheureusement, on décide de s'en mêler et on devra se rendre à la Cour suprême avec ça. Donc, Le ministère de la Sécurité publique affirme au journal ne pas avoir de documents ou d'analyse concernant la relation entre sécurité routière et interpellation aléatoire. Le sous-ministériat des Affaires policières n'a repéré aucun document visé par votre demande, a expliqué le ministère de la Sécurité publique le 30 novembre dernier en réponse à la demande d'accès à l'information du Journal de Montréal. Dans sa décision rendue à la fin du mois d'octobre, le juge Hierjo affirmait que le profilage racial existait bel et bien. Ce n'est pas une abstraction conduite en laboratoire, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité qui pèse de tout son poids sur les collectivités noires. C'est ce que le juge disait. Et évidemment, ben, dans le monde parfait de François Legault, où il n'y a pas de racisme au Québec, ben, évidemment, il n'y a pas de profilage racial. Donc, voilà où ce qu'on en est. Ça va se transporter devant les tribunaux, encore une fois, parce que Québec tenait à continuer à faire de la bisbille. Donc, s'il y en a qui... Il n'y aura peut-être plus de bisbille à occupation double, mais au moins le gouvernement va s'arranger à continuer à mettre de l'huile sur le feu et plutôt que de laisser aller une décision qui fait du sens, de rajouter son grain de sel et de faire « Ouais, mais là, si telle affaire... » Non, 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 non. On essaye de régler un problème, eux veulent... pas le régler, je sais pas. C'est assez particulier. Donc, voilà pour ce qui en est là-dessus, sur le profilage racial. Les interpellations, dans ce cas-ci, les interpellations policières, qui sont faites à l'endroit des communautés noires, qui ont été décriées, mais que le gouvernement ne veut pas laisser aller pour autant. On sera quelques instants au retour à la suite de ce deuxième service. On s'en va au cinéma également tout de suite après la pause. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de Schiste 94.3 et de CFAQ 88.3.
Depuis 25 ans, nous, on y passe à autre chose.
Ah yeah, yeah, ah yeah, yeah.
Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
Vous me connaissez sur les ondes de Chiz pour mon esprit d'analyse. Un commentateur d'actualité politique.
Ça reste que la possibilité qu'il soit minoritaire sous gouvernement reste très, très probable, en fait.
Mais là, Félix Bouffard, le journaliste, est pas mal écœuré. C'est pourquoi je reviens cette année avec une autre formule. Une formule qui met en valeur des chroniqueurs de tout horizon.
Hey, c'est quand tu commences à parler de moi?
Et je serai accompagné cette fois de Virginie, que j'ai été capable de sortir de son lab. C'est les scientifiques, faut pas trop leur en demander.
Regarde Science Vacances qui parle, toi. En tout cas, les lundis matins de 9 à 10, il y en aura pas de facile.
Il y en aura pas de facile à Chiz 94.3.
Pour tout savoir sur la vie artistique locale, Chérie J'arrive, c'est l'émission culturelle par excellence. Tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, moi-même, Andréane Desmeul, et mon équipe de chroniqueureuses, on jase de musique, théâtre, littérature et autres niaiseries. Promis, on te parlera pas de météo et t'entendras toutes les tournes de l'heure. Chérie J'arrive, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30, sur les ondes de Schiste 94.3.
Thank you.
Un soleil toujours de Modo Deck qu'on vient d'entendre en musique. Passons maintenant à une petite bande-annonce. La bande-annonce du film Avalonia, un monde étrange.
Est-ce dirigeable?
Je n'ai jamais rien vu de semblable. Le petit Kned!
Qu'est-ce que la présidente fabrique dans notre cour?
Notre monde court un grave danger. Je suis venue te demander de partir avec moi en expédition.
Je ne suis pas mon père. C'était lui l'explorateur.
Je sais que tu n'étais qu'un enfant quand il a disparu. Mais aujourd'hui, tu es notre seul espoir.
Monsieur Kned, je suis un grand admirateur
de
votre père. Vous pourriez imiter sa signature?
Quoi?
Ça alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit?
Ethan, tu as amené le chien?
Désolé.
Nous sommes sans contredit en territoire inconnu.
Oh. Bonjour, vous ne comprenez sans doute pas un mot de ce que je dis?
Mais évidemment que je vous comprends.
Quoi? Papa?
Papa?
Grand-père?
Je suis grand-père.
Où est-ce qu'on est, au juste?
Là où les falaises sont en vie. Et où l'eau fait fondre la chair sur les os.
Tout dans ce monde essaie de nous tuer.
Ça te va si je t'appelle Splat? Je sais pas, je trouve que ça te va bien. Au! D'accord, je l'ai bien mérité.
Grand-père est génial!
Alors là, tu te trompes!
Tu m'as donné une machette pour mon anniversaire!
C'est tout à fait mon genre!
J'avais 2 ans!
Bon, c'est sympathique cette réunion de famille, mais on a tout de même un monde à sauver!
On doit trouver une solution, sinon on est foutus! Complètement foutus!
Quoi? T'es sérieux?
Non, je te fais marcher, c'est tout!
Ça, c'était inattendu!
Avalonia, un monde étrange, Strange World, en version anglophone. Les Clades sont une famille d'explorateurs légendaires connus pour ses découvertes importantes. Ceux-ci viennent de découvrir un monde inexploré, où pullulent les créatures différentes et fantastiques, mais aussi de nombreux dangers. Aidés d'un blob malicieux et de leur chien à 3 pattes, les membres de cette attachante famille se lanceront dans cette mission cruciale, la plus importante à ce jour pour eux. Pourtant, des rancunes et des querelles entre les différents membres du clan menacent de tout faire éclater, ruinant ainsi tous leurs efforts. Ça vaut le résumé, mais c'est à peu près ça aussi. Malheureusement, la bande-annonce dévoile à peu près tout le film, ou en tout cas à peu près. Des fois, ça arrive. C'est un Disney. Même si ça n'a pas l'air, c'est un Disney. Et je pense qu'on est en train de retomber dans cette espèce d'âge un peu tranquille pour les franchises Disney. Je m'explique. Il y a eu l'espèce d'âge d'or dans les années 90, avec à peu près tous les films sortis entre 88-ish et 2000-2001, qui sont vraiment comme passés à l'espèce de pas de royauté, mais en tout cas dans l'âge d'or. Donc, tu sais, c'est La Belle et la Bête, c'est Aladdin, c'est Tarzan, La Petite Sirène, L'Étrange Noël de Monsieur Jack. C'est toute cette période-là. Les 101 Dalmatiens, oui. Donc, tu sais, c'est toute cette période-là dans les films d'animation traditionnels, entre guillemets. Ensuite, les débuts 2000... C'était un peu moins ça, tu sais, Atlantide, Petit Poulet. C'était-tu à eux autres, Petit Poulet? Tu sais, il y a eu une espèce de passage à vide, les films étaient un peu moins bons. Puis, un moment donné, fin 2000, début 2010, là, ça recommençait à repogner. Les nouveaux héros, La Reine des Neiges, Rebelle, Réponse. Tu sais, on recommençait à revenir dans les classique de Disney. Et là, en ce moment, fin 2010, début 2020, on recommence à tomber là-dessus. On a un petit peu plus de misère à revenir avec les films. Puis je pense que Avalonia se range là-dedans dans un Disney correct, mais sans plus à preuve. Il n'y a pas de buzz plus qu'il faut autour du film. Les critiques sont correct sans plus. C'est du 2 étoiles, 3 étoiles. C'est pas, on réinvente pas le genre, mais en même temps, on n'est pas subjugué non plus. Bon, comme on l'entend dans la bande-annonce, c'est ça, t'as le père qui est aventurier, le fils qui l'est un peu moins. On apprendra qu'il deviendra cultivateur parce qu'ils vont découvrir. Bon, il est un peu dans la bande-annonce aussi, mais ils vont découvrir une espèce de plante qui génère une certaine énergie. Et cette énergie-là, ils vont la cultiver. Donc, le village, la ville d'Avalonia va découvrir l'électricité. Donc, vont pouvoir inventer des machines, ils vont s'industrialiser, entre guillemets, grâce à cette plante électrique-là qu'ils vont cultiver. Lui va en être le cultivateur principal. Et c'est ce qui va faire en sorte que il va avoir un déclenchement. C'est que certaines récoltes vont complètement se décimer. Donc, il y a un mal au travers de cette plante-là, donc à découvrir. Donc, d'où pourquoi ils partent en excursion. Et donc, tu sais, en tant que tel, c'est un voyage au centre de la Terre. Tu sais, ça ressemble à plusieurs autres films que c'est, tu sais. Il y a des bonnes intentions, il y a plusieurs thèmes, tu sais, justement, on parle ça des relations conflictuelles. Bon, là, dans ce cas-ci, le père, grand-père absent pendant une période de temps, les deux s'en, le père, le fils s'en veulent un peu, nanana. Au travers de tout ça, ils ont mis que le petit-fils, est gay. Est-ce que ça rajoute à l'histoire? Aucunement. Il y a encore eu cette espèce de controverse-là de « Ah, on a mis un personnage gay. Ah, ben, on a mis des scènes qu'ils peuvent s'enlever extrêmement facilement pour le marché chinois parce qu'on sait qu'ils prendront pas le film si ce bout-là est dans le film. » Fait que tu sais, il y a deux scènes comme ça que t'es enlèves parce qu'on mentionne le fait que le jeune a une attirance pour un autre ami garçon. Et c'est tout, tu sais, ça joue pas sur l'intrigue, c'est anecdotique, mais on l'a mis dans le film, tu sais, c'est là. Puis en plus, il est pas blanc, il est bronzé, parce que sa mère est noire, lui, le père est blanc, fait que, oh, c'est un mulard, fait que, tu sais, il est mixte, fait que, tu sais, ils ont essayé de mettre tellement d'affaires dans ce film-là pour, au final, arriver qu'une histoire correcte, sans plus. La résolution, évidemment, tout le monde va finir par se reparler puis sera plus fâché que personne. Fait que, tu sais, ça, évidemment, cette résolution-là, ben, on va s'y attendre que finalement le père et le fils vont recommencer à se parler, ils vont arrêter de se faire la gueule. Et même affaire avec le fils et son fils, eux aussi vont mettre leur. Ben, ils sont pas vraiment fâchés, mais tu sais, c'est un adolescent avec son père qui essaye de bien faire, puis nan. Fait que, tu sais, cette dimension-là, on l'a déjà vu, ça aussi. Puis bon, la quête principale, c'est ça, c'est d'aller au centre de l'univers, comme dans le film du même nom, au centre de la Terre. Fait que, tu sais, puis là, rendu au centre de la Terre, oh, il y a des trucs fantastiques qui arrivent. Puis, tu sais, il y a un petit twist que finalement, ce qu'on pensait être, c'était pas ça. Puis, tu sais, toutes les espèces de branches classiques sont toutes cochées, sans nécessairement réinventer. Fait que c'est pour ça que, puis même en ce moment, le box-office de ce film-là est vraiment pas bon. Ça a coûté entre 135 et 180 millions. Ils ont à peine fait 30 millions en 2 fins de semaine. Fait que c'est un échec, malheureusement. Et c'est probablement dans la catégorie où on mise sur des purs Disney, mais on garde sur Disney+. Des films qu'on n'a jamais sortis comme le panda de Pixar, mon Dieu, comment que Alerte Rouge, qui a été uniquement lancé sur la plateforme parce qu'on ne pensait pas que Alerte Rouge allait bien faire, quand finalement ça a été l'un des meilleurs démarrages. Mais on envoie Lightyear au cinéma qui a été également un échec commercial. Fait que tu sais, Il y a des espèces de décisions de même qui sont un peu étranges. Arme, Soul, qui finalement est seulement sorti sur les plateformes à cause de la pandémie, évidemment, mais qui aurait peut-être pu avoir une certaine vie au cinéma. Donc, on est dans une espèce en ce moment de... On erre un petit peu peut-être du côté de chez Disney, Pixar. On essaye des affaires, mais que ça fonctionne pas nécessairement. Donc, on essaye tant bien que mal. On veut beaucoup, ça c'est sûr. Mais qu'éventuellement, on va peut-être réussir à trouver une nouvelle formule qui a déjà fonctionné ou qui va recommencer à fonctionner, sait-on jamais. Il y a eu la bande-annonce au cinéma qui a été présentée d'Élément ou Élémentaire. Donc, une fille feu, un garçon eau qui vivent dans un monde où la terre, le vent, l'eau et le feu sont les quatre éléments. Il me semble que c'est élémentaire, le titre en français. Ça s'annonce extrêmement bon. Ça ressemble un petit peu à Zootopia. Ben, en tout cas, la bande-annonce, c'est une scène dans une scène de métro où on présente tous les personnages, un peu comme Zootopia l'avait fait. Mais en tant que tel, la bande-annonce est prometteuse. Peut-être est-ce qu'Élémentaire sera ce qui va repartir la machine comme du monde, même s'il y a un Reine des Neiges 3 qui a été confirmé. Mais Élémentaire est le prochain projet qui s'en vient. Il risque peut-être de recommencer à attirer le monde. Mais pour l'instant, malheureusement, Avalonia ne sera pas... Strange World, Avalonia, un monde étrange, ne sera peut-être pas... ce qui va ramener les gens voir du Disney au cinéma, autre que les Marvel. Mais sinon, c'est sympathique. Est-ce qu'on se garoche pour aller le voir? Pas nécessairement. Je suis tombé malheureusement sur la version 3D quand j'y étais au cinéma, puis ça rajoutait rien du tout le 3D. Donc, à attendre peut-être sur Disney+, sait-on jamais. On s'arrête là-dessus. Au retour, la conclusion de l'émission cette semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAQ 88.3. Léonie Pernet, qu'on vient d'entendre en musique avec les chants de Maldoror. En musique. Avant de conclure l'émission de cette semaine, c'est sorti un peu plus tôt. Aujourd'hui, il y a eu un suivi sur l'attentat au Métropolis lors de la victoire du Parti québécois, où il y a eu un attentat qui a été perpétré contre la première ministre élue le soir du 4 septembre, Pauline Marois. Les quatre techniciens de scène ayant survécu à l'attaque du Métropolis ont obtenu gain de cause contre le corps policier qui était responsable ce soir-là de la sécurité du rassemblement péquiste. Dans un jugement rendu cette semaine, le juge Philippe Bélanger de la Cour supérieure du Québec a ordonné que près de 292 000 $ soient accordés à Guillaume Parisien, Jonathan Dubé, Audrey Dulon-Bérubé et Gaël Geringhetgeli, une somme néanmoins inférieure à ce qu'il demandait. Chacun des plaignants réclamait 175 000 $ à titre de dédommagement pour troubles de stress post-traumatique et autres séquelles psychologiques provoquées par la tragédie. Lorsque Richard Henry Bain a assassiné Denis Blanchette et blessé grièvement Dave Courage, deux amis et collègues des plaignants, tous techniciens de la scène, le dédommagement devra être versé sur une base solidaire par la Sûreté du Québec et par le service de police de la Ville de Montréal pour ne pas avoir assuré de présence policière ni de périmètre de sécurité à l'arrière du Métropolis le 4 septembre au soir. L'avocat des techniciens de la scène a tenu à souligner l'importance de la tenue d'un tel procès pour ses clients avant même que le jugement ne soit rendu. On les a toujours traités comme de simples témoins, donc on n'a jamais vraiment validé le trauma qu'ils vivaient. Avant le procès, a expliqué Maître Virginie Dufresne-Lemire, les plaignants reprochaient au corps de police impliqué, voilà, d'avoir failli à leur mission de veiller à leur sécurité en omettant de mettre en place les mesures et les effectifs qui auraient permis d'éviter ce genre d'attaque. Le juge leur a donné raison en critiquant le plan de sécurité policier inadéquat pour un tel événement. Le SPVM aurait dû mener une analyse spécifique de ses effectifs à déployer à l'extérieur du Métropolis et non pas seulement à l'intérieur. Par manque de communication et de coordination dans les déploiements des effectifs, tant du côté de la SQ que du SPVM, tous deux ont manqué à leurs obligations d'assurer la sécurité du public, en l'occurrence celle des demandeurs, a fini par trancher le jugement plutôt. Si le juge a souligné qu'il remettait nullement en question l'intégrité, la bonne foi et la bienveillance des policiers dans l'exercice de leur fonction ce soir-là, il a conclu tout de même que les demandeurs ont souffert du mauvais arrimage des corps de police dans la mise en place de leur plan de sécurité. C'est cette faille importante, selon lui, qui aurait permis à Richard Henry Bain de tuer le technicien de scène Denis Blanchette et de blesser grièvement son collègue Dave Courage et de traumatiser durablement les quatre demandeurs dans ce dossier. L'absence de présence policière et d'un périmètre de sécurité à l'arrière du Métropolis constituait une faille importante dans ce plan de sécurité dont a profité tragiquement Richard Henry Bain. Donc, qu'on avait possiblement, parce qu'à ce moment-là, c'était pas encore confirmé que Pauline gagnait, mais qu'on avait possiblement la prochaine première ministre à l'intérieur et que seule sa sécurité autour d'elle était arrangée et que derrière le Métropolis, il y avait personne pour faire la sécurité et tout ça. On se souviendra que le caméraman de Jean-René Dufort d'Infoman avait, avec sa caméra, juste passé en avant, en arrière du bâtiment, comme si de rien n'était, sans jamais se faire arrêter. Donc, les portes n'étaient pas surveillées. Et c'est ça qui n'est pas normal. C'est que comment ça se fait qu'en plus, on avait une possibilité d'avoir une première ministre désignée dans le bâtiment qui n'avait pas plus de sécurité que ça. Et justement, parce que cette sécurité-là a été déficiente, qui est arrivé ce qui est arrivé, et que justement le juge se range du côté des demandeurs pour la mauvaise gestion ou la mauvaise planification qu'ont fait les corps de police. Outre les menaces qui avaient été proférées sur les médias ce soir à la gare de Mme Marois le jour même, le tribunal considère qu'il n'a pas eu lieu de reconsidérer l'enquête policière à leur sujet. La publication de ces menaces contribue au contexte déjà tendu dans lequel s'est tenue cette soirée électorale et illustre tout de même un risque de comportement violent à l'égard de Pauline Marois. On n'a pas adopté le plan de sécurité suite à ces menaces, a commenté l'avocat des plaignants, a expliqué Maître Virginie Dufresne en entrevue à RDI. Donc voilà. Il y a eu beaucoup de confusion, il y a eu beaucoup de mauvaise gestion, et que justement, peut-être que si le tout avait été mieux encadré, si le tout avait été mieux géré, peut-être est-ce qu'il n'y aurait pas eu cette fin tragique-là, comme on l'a connu. Donc malheureusement, ça s'est soldé de cette manière-là. Mais évidemment, avec des si, on ne réglera jamais rien. Donc au moins, il y aura une compensation pour les collègues... Les collègues des victimes, les victimes, eux qui auraient pu être victimes également. Donc, au moins ça qui se règle, et ça c'est le jugement a été rendu donc cette semaine. Juge Philippe Bélanger, qui, de la Cour supérieure du Québec, qui ordonne que près de 292 000 $ soient accordés aux quatre demandeurs. Une somme un petit peu inférieure à ce qu'ils demandaient, mais tout de même. Et c'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service, ici même sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3. À la semaine prochaine. Salut!
OK, attention. 1, 2, 3.
Chiz!
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Imaginez-vous au comptoir d'un bar caché dans une ruelle. Les murs sont en pierre, les meubles en vieux chêne, et il y a un orchestre jazz qui joue au fond de la pièce. C'est dans cette ambiance qu'on vous accueille chaque lundi à 11h sur les ondes de Chiz 94.3 pour entendre les autrices et les auteurs de Québec. Le cabaret du crachoir, prolongement de la revue Le Crachoir de Flaubert, offre à vos oreilles de véritables soirées littéraires. Les lundis matins.
Allô tout le monde, c'est Mathieu Dufour, fier porte-parole de l'Opération Nez Rouge. C'était impossible de faire une pub radio sans que je fasse une chanson. Fait que ça part! Mario est bagorlo, José est sur le party, Robert y voit plus clair, y'a personne qui peut chauffer. Le Carole, la bénévole qui débarque en fin de soirée pour les raccompagner en toute sécurité. 1-8-6-6, Desjardins! Faites-moi confiance, la gang, venez l'essayer. Opération Nez Rouge, là, vous pourrez plus vous en passer. Une présentation.